du Trisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio.
Patrick Derry est avec nous pour faire le tour des nouvelles du jour. Patrick, bonjour.
C'est Benoît.
Salut, et on commence avec le bilan COVID.
Oui, 2071 nouveaux cas aujourd'hui. Donc, c'est dans les mêmes eaux des trois derniers jours, là, autour de plus ou moins 2000. Un petit peu plus à Montréal, 727, donc c'est à peu près 130 de plus qu'hier. 353 nouveaux cas en Montérégie, donc une centaine de plus, mais c'est plus bas que ce qu'on avait eu la semaine passée encore. Laval, 165 cas, donc une centaine de moins. Donc, et c'est aussi à Laval, ce qui est intéressant, c'est que c'est le plus petit nombre de cas depuis avant les fêtes, parce qu'on sait que c'est la région qui est la plus touchée au Québec présentement. Mmh. Mais quand on regarde ça dans l'ensemble depuis quelques jours, ce qu'on voit, c'est une relative stabilité. Là, ça bouge un peu des fois en haut. Là, il y a des petits mouvements quotidiens auxquels il ne faut pas trop attacher d'importance, là, mais c'est relativement stable. Les décès, 33 nouveaux décès, ou en fait c'est 35 nouveaux décès, mais moins deux qui sont retirés parce que finalement la cause du décès n'était pas attribuable à la COVID. C'est quelque chose qui arrive souvent. Total, 8815 décès en tout au Québec. 19 hospitalisations de plus, donc on dépasse le plateau des 1500. On se rappelle, avant Noël, on avait dit qu'il fallait absolument pas se rendre à 1000 hospitalisations parce que les problèmes commenceraient. Là, on est à au-dessus de 1500. On va en reparler d'ailleurs dans quelques instants. Plus 8 aux soins intensifs, total de 229. Fait que le sommet au printemps, c'était 230. Fait qu'à toute fin pratique, on est arrivé là où on était au printemps en termes de patients aux soins intensifs. Fait que ça, c'est un autre problème. Le vaccin, 7855 doses données hier. Au total, on est rendu autour de 107 000 et on a manqué de vaccins hier au Québec. On disait que si les livraisons de vaccins augmentaient pas, on allait en manquer. C'est une possibilité que M. Dubé, ministre de la Santé, avait évoquée en disant que le Québec vaccinait tout ce qu'il recevait. Ben, c'est arrivé. Il y a quatre régions qui n'ont pas été en mesure de donner des vaccins hier. Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord et le Nord du Québec. Évidemment, il faut que les vaccins se rendent là-bas.
Ben oui.
Le Québec doit recevoir 80 000 doses d'ici vendredi. Là, il semble qu'il y en a 40 000 qui soient rentrées, mais moi, ce que je veux revenir là-dessus parce que, tu sais, on parlait de M. Trudeau qui avait fait de la petite politique sur le dos des provinces, hein, avec sa voix grave. Là, on veut pas voir des vaccins dans des congélateurs, on veut les voir dans les bras des Canadiens
ouais.
vulnérables.
Ouais.
Mais des fois, quand tu craches en l'air, là,
ouais.
mais, donnez-nous des vaccins, puis on va les mettre dans le bras. Puis, il y a peut-être une question à poser sur le genre d'entente que le fédéral a conclu, là, si ça commence à rentrer au compte-gouttes, parce qu'il y a certains pays où ça va plus vite.
Mais y a-tu un journaliste, Patrick, qui va demander à Justin Trudeau, lors de ses points de presse, où sont les vaccins? Là, dites-nous où ils sont. Est-ce qu'ils sont en laboratoire? Est-ce qu'ils sont pas arrivés? Ils sont pas fabriqués? Est-ce qu'ils sont payés? Est-ce qu'ils sont commandés? Est-ce qu'on a une date de livraison? Pas entre avril et juin. Sacrément, c'est pas trois mois, la date de livraison. Est-ce qu'on le sait à la semaine près? Si on ne sait pas, comment se fait que vous le savez pas? Qui a négocié ces contrats de cabochon? Où sont les vaccins? Je sais pas. Quelque chose de même.
Écoute, il y a peut-être des bonnes réponses à tout ça, mais moi, je prends toujours la transparence. Et là, dans ce cas-ci, c'est des contrats qui sont confidentiels. Ça serait intéressant de le savoir. Le gouvernement du Québec, lui, est plus transparent présentement parce qu'il y a un calendrier qui est affiché sur le site de la COVID où on voit là, toutes les catégories de priorisation, on voit les délais de livraison qui sont prévus. Donc, il y a une logistique qui est en arrière de ça, mais je suis d'accord, il faudrait qu'on explique pourquoi. Le Canada, donc, on disait avant que la campagne commence, il y a plusieurs médias qui ont recensé, dont le très sérieux des économistes qui a fait une évaluation de l'approvisionnement dans différents pays puis des ententes qui avaient été conclues. Et le Canada était un de ceux qui était le mieux placé au total, mais là, on commence à prendre du retard sur certains pays.
Ouais, mais fait que imagine les autres. Et là, il y a cette histoire, Patrick, des aînés, il y en a sept qui ont été vaccinés, mais qui contractent la COVID. Je trouve que la nouvelle est pleine de raccourcis, là. Je pense qu'il devrait y avoir beaucoup de détails pour comprendre ce qui s'est passé.
Absolument, absolument. C'est spectaculaire, ça peut faire peur, ça peut donner l'impression que tout va mal. En plus de ça, on sait qu'au centre Mémonide, sept résidents du centre Mémonide à Montréal qui ont contracté la COVID après avoir été vaccinés, il y a un recours qui a été déposé pour que la deuxième dose soit donnée plus rapidement. Bon, on comprend que plein de gens ont des inquiétudes, là, mais est-ce que ça veut dire que le vaccin ne fonctionne pas? Est-ce que ça veut dire qu'on devrait donner deux doses immédiatement? Pas nécessairement.
Est-ce que ça veut dire que les sept là, qui sont résidents, est-ce que ça veut dire qu'ils ont contracté la COVID entre l'injection puis l'efficacité du vaccin? Est-ce que ça veut dire que les résidents comme tels avaient des maladies? Parce que les vaccins là ont été évalués avec des gens qui étaient en bonne santé. Est-ce qu'il y avait des problèmes pulmonaires déjà? Est-ce qu'ils avaient déjà des problèmes de santé? Il me semble qu'il devrait avoir plus de détails là-dessus.
Juste les dates. Ouais. D'abord, le vaccin protège pas à 100%. Là. Présentement, ce qu'on sait, après deux doses, on se rend autour de 95% d'immunité. Après une dose, au bout de 21 jours, on est à 92%. Fait que si tu as 300 résidents qui ont reçu le vaccin, là, plus ou moins, donc il y en a déjà au départ que c'est pas efficace à 100%. Par contre, en principe, ils devraient être malades. Moins malades. L'autre chose, c'est ouais. que c'est l'immunité prend quelques jours avant de se construire.
C'est ça. Hein?
Avant 10 jours, il y a pas de protection avant 10 jours. Fait que c'est évidemment c'est une course contre la montre, puis on comprend là, que c'est pas plaisant, mais à partir du moment où le vaccin est donné, si tu es en contact la journée même ou le lendemain, tu peux avoir le temps de développer la maladie avant que l'immunité se construise. Fait qu'avant 10 jours, c'est comme la même protection que le placebo dans les groupes témoins, c'est-à-dire qu'à toute fin pratique, tu n'as pas de protection. Le maximum de l'immunité de la première dose arrive au bout de 21 jours. Fait qu'il peut avoir des raisons banales, juste un cas de malchance. Puis effectivement, ces gens-là devraient être moins malades en principe, mais c'est sûr que c'est pas agréable. Mais s'ils avaient été vaccinés juste 2 semaines plus tôt, peut-être qu'il l'aurait pas contracté, puis peut-être qu'il l'aurait contracté pareil parce que ça protège pas à 100%.
Ouais.
Fait que ça va arriver encore.
Mais
c'est ça qui va tenir, là, quand il va voir.
Moi voir là, la menace d'une poursuite contre le gouvernement, c'est-à-dire nous tous là, pour avoir la deuxième dose, je suis tombé en bas de ma chaise parce qu'il y a tellement de gens qui ont même pas reçu la première dose que là à un moment donné, faut regarder l'ensemble de la situation, pas juste son cas là, le cas. C'est triste là, que les personnes âgées soient malades, mais il y en a plein qui pourraient profiter de cette deuxième dose pour les protéger. Là, faut pas juste penser à son nombril.
Absolument, absolument. Là, c'est une situation de crise grave. Il y a des feux qui sont pris partout.
Ouais.
On manque de pompiers, on manque de boyaux, on manque d'eau.
Ouais.
Puis là, faut essayer de limiter la catastrophe. La question qui va se poser, par contre, c'est de savoir combien de temps pour la deuxième dose, parce que là, selon le calendrier du gouvernement, la deuxième dose arrive là un bon 12 semaines après. Ça, c'est peut-être trop loin, puis peut-être qu'on va devoir la rapprocher, mais en attendant, faut sauver des vies
ouais.
au maximum. Puis toutes les données scientifiques tendent à montrer que quand même la première dose donne une excellente
ben oui.
chance de se protéger pendant un certain temps. Puis ben là, après ça, il n'y aura pas de solution parfaite. Là, on est dans une pandémie.
Mais est-ce que c'est moi, Patrick, mais la docteure Tam s'en sort vraiment mieux que le docteur Arruda pour tout ce qui est de la santé publique? Puis est-ce que le gouvernement fédéral se sent mieux des critiques que le gouvernement provincial, par exemple au Québec, même en Ontario? Je trouve qu'on pose pas beaucoup de questions au gouvernement fédéral. Ils nous annoncent des choses puis on dit ben OK, d'abord c'est correct Justin, on va l'accepter.
Ça se peut, c'est plus loin que nous. C'est sûr que le gouvernement fédéral a le beau rôle dans la pandémie d'une certaine façon parce qu'il distribue des chèques, fait que ça a tendance à rendre le monde heureux. Moi je suis d'accord pour les frontières, ça aurait pu être un petit peu plus serré. Le dépistage au retour, on a pelleté le problème dans des pays qui avaient pas nécessairement les ressources pour les installations. Le vaccin, ben, il va pas. C'est, disons qu'il y a la petite politique qui a été faite, l'espèce de guéguerre, là,
ouais.
un jeu de ping-pong entre Québec et Ottawa. Là, des fois, c'est Québec qui a donné les coups. Des fois, c'est Ottawa. Ça sert à personne. À un moment donné, il faut expliquer les choses telles qu'elles sont. Puis la réponse, ça peut être, écoutez, voici les calculs qu'on a faits. Voici, sans donner tous les détails, peut-être qu'il y a des choses qui sont confidentielles, c'est correct. Les raisons pour lesquelles on a pris telle entente qu'on a planifiée. Puis peut-être que tout ça est sensé. Mais au moins jouer à visière levée, puis c'est pas le temps pour la guéguerre entre le fédéral.
Non, parce que pendant ce temps-là, les aux soins intensifs, ça déborde. Là.
Oui, c'est ça. Là, c'est le protocole de priorisation. Fait qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand on n'a plus assez de place pour soigner des gens faut décider qui vit, qui meurt pratiquement. Et le Québec se prépare à ça. On a vu ce genre de situation-là en Italie. On l'a vu aussi aux États-Unis. On a un respirateur libre, mais on a deux patients qui on branche. Et ça glace un peu le sang de penser à ça, mais c'est ça qui arrive quand on est débordé. Puis tu sais, quand il y a bien des tatas qui disent encore, ah ben c'est épouvantable les effets du confinement, des mesures sanitaires, puis tout ça, ce que ça va avoir, on va tuer du monde. Mais en réalité, c'est que ça tue, le virus tue deux fois, il tue parce que le virus tue, mais il tue aussi si on s'en occupe pas comme il faut. Puis c'est ça qui est arrivé présentement aussi, on est simplement débordé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prioriser le patient qui a le plus de chances de survie, d'abord selon la condition, ensuite selon l'âge, s'il y a une différence de plus de 25 ans. Ensuite, si ça ne réussit pas à départager, on va voir si le patient est un soignant ou non, parce que là, il y a une question utilitaire qui est plate, mais qui est réelle. Et si on n'arrive pas à trancher, ça va être le hasard. Donc, c'est vraiment pas plaisant. Les patients qui sont pas priorisés, puis ça, c'est pas juste pour les patients de COVID, hein. Ça peut être un problème cardiaque, un accident d'auto, ainsi de suite. À un moment donné, quand on n'a plus de place, on n'a plus de place. Si le patient peut pas être priorisé, on va essayer des traitements alternatifs. Et dans le cas de la COVID, si on peut pas brancher sur un respirateur, on va essayer de donner de l'oxygène, faire autre chose. Et s'il y a rien à faire, ça va être simplement des soins palliatifs. Et là, présentement, dans les hôpitaux, il y a des soignants qui sont en train de se pratiquer, tu sais, de faire, OK, mettons qu'on serait mal pris, on priorise lui. Ils sont en train de se faire une tête là-dessus pour que si ça doit rentrer en place, c'est pas encore le cas. On espère que ce sera pas le cas. Peut-être que ça montrera pas encore suffisamment pour ça, mais on est en train de se préparer à ça.
Ouais, c'est pas mal joyeux comme journée. Puis le confinement, les services essentiels, là, faudrait peut-être rappeler aux gars de la construction qui sont pas invincibles.
Non, écoute, c'est parce que le gouvernement, on se rappelle, il a demandé de limiter dans le secteur de la construction manufacturier, les travaux qui sont à l'essentiel. Et chaque chantier doit décider, et sans beaucoup de surprise, chaque chantier se considère essentiel. Présentement, ça se poursuit comme s'il n'y avait pas de pandémie, comme si on n'avait pas demandé, il n'y avait pas de confinement, comme si on n'avait pas demandé d'efforts additionnels. Les journalistes qui vont sur les chantiers, ils font dire qu'il n'y a pas beaucoup de masques. C'est pas juste à l'extérieur, là. C'est les hôtels aussi, c'est les tours à bureaux. Et c'est pas seulement le commercial, parce que comme il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, qui travaillent de chez eux, puis qui ont parfois un petit peu plus de temps, ben là, ils décident de refaire des choses. Donc, il y a une demande record dans les rénovations résidentielles pendant qu'on est en pandémie. Écoute, c'est sûr que la construction, c'est pas le secteur qui génère le plus de cas. Hein. C'est responsable d'environ 10% des éclosions qui ont lieu en milieu de travail, en tout cas, selon les statistiques. Il y a peut-être une sous-déclaration, là, mais tu sais, à chaque fois qu'on ajoute des pourcentages ou qu'on est dans retranché, ben on ramasse plus tard avec des problèmes. Ouais.
Et Patrick, avant qu'on se quitte, un mot sur ce qui se passe en Ontario.
Oui, l'Ontario décrète l'état d'urgence, donc pour un mois, jusqu'au 10 février. Ça veut dire quoi? Les rassemblements extérieurs qui sont permis là-bas vont être limités à 5 personnes au lieu de 10. Des masques dans les espaces à bureaux. C'était déjà le cas dans les lieux publics, mais là, c'est dans les espaces à bureaux. C'est même recommandé à l'extérieur s'il n'y a pas de distanciation possible. On limite les heures d'ouverture pour les commerces sans les fermer. La construction non essentielle cesse. On va voir si la définition est la même au Québec. Et dans le sud de la province, la partie la plus peuplée, les écoles vont être fermés. Donc, ça inclut Toronto, par exemple. Et l'Ontario, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décidé ça à la suite de prévisions qui envisageant entre 50 et 100 décès par jour au cours du prochain mois. Nous, au Québec, on est à 50 décès par jour en moyenne présentement sur une population plus petite. Ça veut dire que nos 50 morts par jour, c'est comme à peu près 85 morts en Ontario. Fait qu'on a 20% plus de cas, on a environ 70% plus de morts que l'Ontario présentement, en proportion de la population, là, nous, on ouvre les écoles et on ajoute des foyers potentiels d'éclosion. Fait qu'on va savoir dans un mois ou deux qui a eu raison.
On va savoir ça. Puis nous, on se reparle demain à même heure. Merci, Patrick.
Merci, bonne journée.
Au revoir.